Bonjour. À chaque nouvelle région visitée, nous avons ce petit sentiment d'inachevé. On se dit entre nous, faudra qu'on y revienne. Il y a encore tant de choses à découvrir. En ce qui concerne la Loire, le retour était programmé. Lorsqu'en avril, nous découvrions les superbes Cabernet Franc d'Olivier et Fabien Boisard, le Pinot de Nice de Patrice Collin ou encore le Pinot Noir de Vincent Gaudry, nous gardions dans un coin de notre tête que l'heure des Blancs devrait venir, celle des Muscadets Nantais, des Sauvignons de Sancerre et bien sûr l'heure de parler du Chenin. C'est donc le programme que je vous propose pour ce cycle de juin, le dernier de la saison, que nous enregistrons comme il se doit au Wine Therapy, le bar à vin de notre ami Laurent Delso, qui était présent lors du tout premier cycle en Vallée du Rhône, avant même que son bistrot n'ouvre ses portes. Un grand merci à lui de nous accueillir ici pour clore en trois émissions cette saison riche en bon vin, en rencontres et en émotions. Ce 33e épisode se nomme « Les grands petits blancs de Loire ». Bienvenue dans la Terre à boire. Autour de la table, deux habitués et un nouveau. Je commence par le nouveau. Benoît Autier, bonjour.
Bonjour.
Voilà, ben, ravi de te recevoir.
Alors, merci de m'accueillir.
C'est un peu particulier, tu es chroniqueur aujourd'hui et puis tu seras invité dans la prochaine émission parce que tu es libraire et avec toi on parlera de livres autour du vin, tout ça. Et on commence, tu as le rôle de nos deux autres camarades. Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Viette, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va les amis? La Viti, comment ça se passe à Beaune, Philippe?
Ça se passe très très bien. Une belle expérience la semaine dernière sur ma première journée de formation en traction équine.
Traction équine. Donc il y a un cheval qui est concerné là, c'est ça ?
Tu soulèves un cheval en fait.
je le tire.
Tu fais des tractions.
Je tire le cheval.
Ah non, d'accord, ok. D'accord.
Donc oui, traction équine. Aujourd'hui, il y a quand même une réflexion chez pas mal de vignerons sur. Un choisir entre le tracteur pour passer les labours dans les vignes ou alors utiliser le cheval.
À l'ancienne, comme Laureline Laborde.
À l'ancienne, comme Laureline Laborde.
L'idée c'est quoi ? C'est ça pèse moins sur la terre, le tracteur ça a tendance à tout écraser.
L'idée c'est que effectivement le cheval, au passage du cheval, on tasse moins la terre, donc du coup on garde l'oxygénation et l'aération du sol, donc ce qui permet donc au sol de respirer et puis d'entretenir la vie microbienne, la petite faune, les animaux, les vers qui circulent et qui permettent au sol donc de vivre.
Donc toi, tu as joué un peu avec un cheval là, à essayer de labourer.
Ouais.
Et une jument.
C'est quand même une découverte. Oui, c'est.
Elle a un joli nom d'ailleurs, j'ai vu ça sur Twitter.
Elle s'appelle Quille.
Bah tiens.
Elle a 14 ans. Elle pèse 900 kilos. Donc elle est tout en muscles. Donc c'est assez impressionnant parce que donc c'est des chevaux qui sont pas aussi grands que les chevaux qu'on monte pour la course, le steeple, mais c'est des chevaux qui
moi je fais ça tous les week-ends.
Le steeple, voilà. Ah, bien sûr.
Il y en a qui ont une amplitude et qui sont un peu plus larges.
Des obstacles dans le jardin.
C'est quoi, c'est un percheron ?
Non, c'est des auxois. Donc c'est une auxoise de couleur baie. Voilà. Dans les vignes en général, on utilise plutôt des femelles, voilà, des juments, ou alors des masculins mais castrés, donc ce qu'on appelle des hongres. En fait, ça demande quand même un travail de préparation assez conséquent parce que il faut préparer le cheval, le garnir avec tout l'équipement, donc le collier, les traits et puis le licol avec les œillères. Donc, il est préférable de travailler, enfin de mettre des œillères au cheval parce que le cheval se distrait assez rapidement. Donc, les œillères lui permettent de se concentrer sur son travail dans le rang. Et puis on travaille beaucoup à la voix sur des ordres très simples, j'appelle le cheval par son prénom et puis je lui donne l'ordre que je veux qu'il remplisse. Donc marcher, donc, le cheval se met à marcher droit. À droite, donc le cheval tourne à droite et puis ainsi de suite. Donc vous êtes à la fois en train de le guider. À la voix, mais aussi avec les brides. Parce que donc, le cheval a un mors donc dans la bouche, et donc la bride permet d'appliquer la pression pour le faire tourner tout en écoutant la voix. Donc il faut être très coordonné, parce que si vous donnez un ordre à la voix et que la pression de la bride est à l'inverse, donc le cheval va,
ah oui,
va suivre donc la pression de la bride. Sachant que l'idée, c'est quand même de pas trop utiliser la bride, parce que le mors, c'est quand même une sensation très désagréable pour le cheval.
C'est un peu tannique.
Un peu, ouais.
C'est ce que nous disait Laureline également, c'est, il me semble, hein, c'est que ça devient assez naturel. Le cheval, assez vite, sait ce qu'il a à faire.
Alors,
tout à la voix, on arrive à le guider, il connaît son job.
C'est effectivement très impressionnant, parce que bon, bah, quand vous êtes un novice...
C'est très intelligent, un cheval. Hein.
Et c'est plus smart... C'est souvent plus smart que nous, mais par exemple avec des, c'est un cheval école, hein. Qui est un cheval école, donc elle a l'habitude en fait d'avoir
des gugus,
d'avoir des gens comme moi
là.
qui
font n'importe quoi,
qui donnent des ordres et puis qui font le contraire, et donc vous lui dites en sortant du rang, bah, qui va à droite, et puis vous avez envie qu'elle aille dans un rang. Et puis en fait, vous avez mis la pression au mauvais moment, ou l'ordre a été passé au mauvais moment. Donc, elle va dire, bon, je sais ce que tu veux faire, et moi je sais où est-ce que je dois aller. Donc, elle va se mettre dans le rang qui n'a pas été labouré. Donc, elle sait distinguer entre un rang qui n'est pas labouré et un rang qui l'a été. Et ça, c'est très impressionnant.
C'est un clin d'œil, genre,
Ouais. Le cheval, en
toi,
fait...
Toi, tu comprends rien, toi.
Exactement. Et le cheval a une tendance à vouloir dominer. Et donc si vous n'êtes pas si vous êtes pas assez ferme et assez sûr de vos ordres, le cheval va prendre le dessus. C'est ça qui est très très impressionnant. Et le formateur s'appelle Abel Bizoire. Donc Abel a remis la traction équine au goût du jour dans le domaine de la viticulture il y a une bonne vingtaine d'années, donc au début des années 90. Il est éleveur et puis aussi formateur. Et puis, il a travaillé pendant 3 années avec le domaine de la Romanée-Conti pour les aider justement à passer au cheval. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît.
Petit domaine en Bourgogne.
Tout petit domaine en Bourgogne.
Je ne connais pas.
Et c'est impressionnant de voir à quel point la jument, répond instantanément aux ordres d'Abel. Donc, il n'a pas besoin de parler plus que ça. Le cheval le connaît. Et réagit tout de suite. Et Abel nous disait, si je vous avais mis avec une jument beaucoup plus jeune que Kill, jamais vous auriez pu la prendre en main, parce que le cheval aurait réagi uniquement au son de ma voix. Donc les chevaux sont des animaux extrêmement sensibles au son. C'est pour ça qu'il ne faut pas les caresser sur le contour des oreilles, parce que c'est des zones qui sont extrêmement sensibles et ils n'aiment pas. Et ils reconnaissent tout de suite.
C'est comme moi.
Et ils reconnaissent tout de suite le son de votre voix.
Kilos.
Et c'est très impressionnant. Et quand vous avez 900 kilos au bout de la bride, il faut faire très attention, parce que l'idée en fait de la traction équine et du dressage, de l'apprentissage du cheval, c'est de faire en sorte que son pas se raccourcisse. Donc le pas d'un cheval, c'est ce qu'on appelle le jugé. Quand un cheval se juge, ça veut dire que ses postérieurs vont se mettre à l'endroit exact de ses antérieurs quand il se déplace. Quand il se déjuge, ses postérieurs se mettent en arrière de ses antérieurs quand il avance. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre au cheval, c'est de se déjuger pour qu'il avance plus lentement dans les rangs de vigne.
Que son pas naturel.
Que son pas naturel. Et donc pour lui, comme il a un engin à tracter derrière, ça le fatigue beaucoup moins. Et puis c'est beaucoup plus facile pour vous de le guider. Et justement, quand il passe dans les rangs, le cheval ne passe jamais au même endroit. Donc c'est pour ça aussi que c'est très sain pour les sols, parce que justement, il ne tasse pas le sol comme le ferait un tracteur. Et c'est extrêmement précis. Donc vous avez un outil comme par exemple la décavaillonneuse, qui est un outil qui sert justement à rabattre en fait la terre, les mottes de terre à l'intérieur du rang, pour faciliter les travaux intercepts. Pendant l'hiver, vous avez buté la vigne, c'est-à-dire que vous avez ramené de la terre sur les ceps pour éviter qu'ils gèlent. pour éviter le gel l'hiver. Et au printemps, vous décavaillonnez.
Tu viens pas avec un gun et puis tu vises la vigne et tu...
Non, absolument pas. Et donc le cheval, quand vous l'attelez
comme le melon
avec
cavaillons,
quand vous
la vigne,
quand vous installez donc la décavailleuse sur le cheval, quand vous l'arnachez avec cet instrument, il reconnaît, il sait qu'il va passer la décavailleuse. C'est un engin qui passe très très proche des cèpes, et il sait que si vous passez trop proche des cèpes, vous risquez éventuellement d'arracher un cèpe. Et donc dès qu'il va sentir qu'il y a une petite pression, il va s'arrêter et ensuite vous pouvez repartir. Donc c'est extrêmement précis et c'est très appréciable. Voilà, un outil de précision. Et puis il y a des échanges avec le cheval. C'est quand même plus intéressant d'échanger avec un cheval qu'avec un tracteur. Et c'est également très très reposant, très très satisfaisant. Voilà. Donc une belle expérience, et puis j'ai quelques séances supplémentaires qui vont venir, donc j'ai hâte.
Écoute, prochain. On va faire un podcast là-dessus, je pense.
Quoi faire. Parce que là... Donc je salue Laureline Laborde, parce que je partage son enthousiasme sur cette méthode de travail.
On appellera ça ma terre à labourer.
Voilà, ma terre à labourer.
Voilà. Avec qui cette belle histoire d'amour. Merci Philippe de faire partager.
C'est un long
ça.
Roman.
C'est quand même c'est passionnant, et on sent bien que c'est cette relation là entre l'homme et le cheval qui fonctionne, et j'ai vraiment des souvenirs de cet échange avec Laureline.
Le cheval est le meilleur ami de l'homme.
Voilà. Et de mémoire, Benoît Lahaye doit faire ça en Champagne.
C'est bien,
je ne me trompe pas.
Ils sont quelques-uns.
Et puis on peut citer également un gros domaine qui n'est pas du tout connu, qui s'appelle Pontécanet à Margaux.
Encore un inconnu.
Qui ont été, pionniers de la bio.
C'est pas Margaux.
Non, c'est Pauillac.
C'est Pauillac, autant pour moi. Mais je connais pas très bien Bordeaux.
Et donc, t'as passé trop de temps avec les chevaux, t'as oublié tout ce que tu savais sur le vin.
Ouais, puis pas passé à Bordeaux, visiblement. Et donc, Pontécanet, c'est des pionniers dans la région sur le bio et ou la biodynamie. Et ils ont quand même 43 hectares. Et ils ont 43 hectares qui sont entièrement labourés au cheval. Donc, évidemment, vous n'avez pas qu'un seul cheval, vous en avez plusieurs. Mais
bon courage.
Voilà.
Merci pour cette introduction sur les chevaux. On a quand même un peu de travail. Hein. On a...
Alors, tout de suite, juste pour introduire, c'était quoi le titre de l'émission déjà ?
Les petits grands.
Les petits grands.
Grands.
Alors,
les grands
petits par rapport à l'espace occupé par le chenin, parce que souvent on va se vexer avec.
Provocation.
On va pas provoquer les gens de Sancerre. Le Sauvignon est un grand cépage et le Sancerre est un très grand vin. Donc, c'était plutôt par la place relative du Sauvignon sur l'ensemble du terroir et du territoire de Loire.
Au centre, il y a le chenin. À droite, il y a du Sauvignon. À gauche, il y a du Muscadet. Aujourd'hui, sur la carte à gauche, à l'est, à l'ouest. Ok, merci. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ces deux cépages. Je mets des guillemets avec les mains.
Des extrémités de
périphériques. Voilà, au Grand Chenin. Et c'est vrai qu'on a fait le choix de faire deux émissions sur le Chenin et une émission dans laquelle on met du Sauvignon et du Muscadet. Mais c'est pas parce que c'est
moins représentatif en volume. Voilà.
C'est alors. Pour tout dire, c'est le fruit d'une réflexion quand même. Le chenin est le cépage qui s'exprime de multiples façons. C'est une véritable éponge. Il a plein d'aspects. Le muscadet, essentiellement, c'est un vin sec. Le sauvignon, essentiellement, c'est un vin sec. Une seule expression, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Au contraire, elle est parfois fabuleuse. Et c'est les vins qu'on va goûter ensemble. Mais voilà, c'est un peu moins complexe. Il y a des cépages complexes. Il y a des cépages plus simples.
Il y a moins d'expression.
On peut dire ça sans vexer personne ?
C'est moins d'expression. En tout cas, en Loire, il s'exprime de manière plus...
Alors commençons. Muscadet. On commence par le muscadet.
Muscadet, écoutez, encore considéré comme un petit vin jusqu'à très récemment, qui commence à prendre un peu d'ampleur, petit vin entre guillemets.
Pour manger des huîtres.
Exactement. Donc côté
très. C'est le vin de soif. Hein, la grande distribution, on a fait
muscadet,
des litres.
On est sur des terroirs plutôt du côté de, bien sûr, de Nantes, soit à l'est de Nantes ou au sud-ouest de Nantes, avec 4 AOC, donc. Sèvres et Maine, Coteau de Loire, Coteau de Grandlieu et Muscadet tout court.
Là, on a un Côte de Grandlieu sur Lys.
Donc, Côte de Grandlieu, c'est l'appellation la plus récente, si je ne me trompe pas.
On est plutôt sur des roches sédimentaires, alors que l'expression théoriquement la plus aboutie est plutôt au sud-est, sur des roches un peu plus volcaniques. Donc là, on est plutôt sur des roches sédimentaires et on est sur un Muscadet sur Lys. Donc le muscadet qu'on appelle aussi melon de Bourgogne, donc c'est un cépage très très spécifique, très iodé, trouve sa stabilité, son expression quand il est élevé sur lit.
Sur lit. Hein,
d'où cette appellation qu'on trouve fréquemment sur les étiquettes.
Tu as 12 secondes pour nous dire sur lit.
Alors non, c'est moi c'est pas moi qui ai 12 secondes,
c'est Philippe.
Parce que c'est lui l'expert des vinifications.
Donc les lits, en fait, c'est les dépôts de levure. De levure post-fermentation qui dégage
alcoolique,
fermentation alcoolique, autant pour moi, qui dégage du CO2 et du soufre qui garantissent en fait la conservation naturelle du vin sans ajout de sulfite, et puis qui apporte aussi une texture et puis un côté un peu minéral, pierre à fusil dans certains vins, et puis qui peuvent aussi apporter le petit côté perlant qu'on trouve parfois justement sur des muscadets.
Un petit peu de gaz, comme s'il y avait un petit peu de gaz.
Mais
ça pétille un tout petit peu.
Le muscadet, qui est donc le nom de Bourgogne, qui est par définition originaire de Bourgogne, comme son nom l'indique, gagne en qualité et aussi en stabilité. Donc c'est-à-dire qu'il ça équilibre le vin dans la durée quand il était élevé sur lit. C'est une des caractéristiques de ce cépage, voilà. D'où l'appellation muscadet sur lit.
C'est le cas de celui-là. C'est un conseil qu'on peut donner. Un muscadet sur lit, plus intéressant qu'un muscadet pas sur lit.
Je pense que vous aurez des expressions beaucoup plus pures et beaucoup plus minérales sur des vins de ce type-là, ouais, effectivement.
Et plus intense, parce que je pense que la particularité, on est en train de le boire là, c'est que le muscadet, c'est quand même plutôt un vin... Un petit peu très iodé, mais souvent un petit peu léger, un petit peu évanescent. Mm. Là, il y a quand même, je trouve, pas mal, beaucoup d'intensité.
Il y a de la texture aussi.
Il y a beaucoup de persistance quand même aromatique. Donc, le vin est quand même assez intense. Enfin, je ne sais pas si vous avez cette perception-là. Mm.
Mais, c'est à la fois très tendu, c'est très acide. Moi, j'aime les vins acides, c'est très tendu.
Il y a de la persistance qu'on n'a pas souvent sur les muscadets,
voilà.
Où c'est l'image un peu négative.
C'est pas un truc qui passe et que tu as oublié.
Et puis en même temps, le côté iodé, salin. Qui fait aussi que le muscadet s'accorde très très bien avec les huîtres, évidemment, mais aussi avec des fruits de mer, mais qu'on peut très bien accompagner avec des viandes blanches en sauce, parce que justement la tension va contrebalancer le gras de la sauce, de la crème, et ça se mariera très bien sur des viandes blanches.
Pour le muscadet, donc le muscadet Sévremen, donc sud-est de Nantes, granitique, c'est plutôt les appellations un peu phares, on va dire, ou moteurs.
Classique,
quoi. Voilà. Après, on a trois lilages qui sortent un petit peu du lot dans la région, je dirais qu'ils pourraient correspondre à des terroirs et des AOC. Je vais pas arriver à les retrouver là dans mes notes. C'est Clisson, Gorge et Palais, qui sont les trois villages, on va dire, un peu... qui sortent un petit peu du lot actuellement. Et ce qui
tout ça, c'est la région de Nantes. Hein.
Voilà, donc ça, c'est sud-est sur l'appellation muscadet Sévremen. Mmh. Donc c'est pas celle-là, c'est au grand lieu. L'avantage du muscadet, quand il est bien fait, c'est que c'est pas cher. Là, on est sur des vins qui sont à 6-7 euros la bouteille, qui commencent à être un petit peu intéressantes. Donc on est quand même deux fois moins cher que des blancs, je dirais, standard de Loire.
On m'a dit ce que c'était, les hautes, domaine des Hautes Noël.
J'arrivais, donc le domaine, c'est le domaine des Hautes Noël, qui est dans un des jolis domaines de grands lieux, hein, de muscadet grands lieux, et c'est plutôt un entrepreneur qui a repris ce domaine-là, qui fait à peu près 25 hectares, qui
cuvée
a repris en 2010.
Les parcelles.
C'est ça, cuvée les parcelles 2016.
Ouais, c'est sympathique.
Voilà, donc qui est un joli muscadet avec justement pas mal de persistance. Après, c'est très droit,
c'est beaucoup
moins de complexité aromatique que sur un chenin, mais c'est pas non plus ce qu'on attend.
Oui, c'est ça.
Et puis ça dépend ce que tu manges avec.
Exactement.
Effectivement, si tu es sur des fruits de mer, des choses un peu iodées, de toute façon, tu vas tuer les arômes. Enfin, tu vas quand même annihiler un peu plus les arômes, ce qui...
Tu vas les buter.
Puis donc, oui, effectivement...
Il y a une droiture qui est quand même assez intéressante, avec beaucoup d'arômes. Effectivement, c'est...
Une robe
beaucoup plus claire,
plutôt claire, beaucoup plus claire que les chenins, et qui est indicatrice d'une trame acide très élevée. Hein. On est sur des vins qui sont extrêmement tendus. Je pense que c'est aussi lié au terroir, à la géologie, et puis sans doute à l'influence marine. On est sur des vins qui n'ont rien à envier au Chenin, qui sont
dans le Muscadet, à côté. Sans faire de pub, il y a quelques, si on voulait parler du Muscadet, il y a quelques domaines qui sortent un peu de...
Il y a des ovnis et puis il y a du talent. Hein.
Domaine Pierre Luneau-Papin qui est connu.
C'est Landron.
Bellevue, Landron, domaine Landron. Chauvinière aussi qui est un domaine intéressant.
L'écu.
Voilà, domaine de l'écu, hyper intéressant. Domaine de la pépière aussi. Et puis ce domaine des Hautes-Noël aussi qui est quelque chose de... où le propriétaire qui est arrivé en 2010 a amené beaucoup de rigueur et beaucoup de travail à la fois dans les vignes et dans le chai. Voilà. Donc ça sur des oursins, des huîtres, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien.
Après, je suis pas certain, mais je crois qu'en plus les vins n'avaient pas pour mission historiquement dans la vente d'être vieillis, d'être généralement c'est des vins qui sont bu jeunes, donc qui n'ont pas nécessité à avoir une évolution tardive très prononcée, à l'exception des grands domaines dont on a parlé, dont on peut boire des vieux millésimes qui sont intéressants et qui sont faits pour être vieillis. C'est des vins qui sont...
C'est des vins de l'été, là, c'est des vins immédiats, j'ai envie de dire. Après, il ne faut pas que ce soit péjoratif comme expression.
On
ne va pas caricaturer
en disant vin de soif, mais ça peut être perçu comme ça un peu.
C'est quand même désaltérant, c'est rafraîchissant. Tous les vins n'ont pas vocation à être gardés en cave pendant des années, je pense.
Non, et puis il n'y a rien de plus sympa que d'aller... Alors là, on n'est pas dans le terrain, mais moi, c'est super d'aller sur les tantos, des huîtres,
et puis un pic-poule de Pinet. Qui
là, vous passez un super moment.
C'est tout à fait le même type
de
vin.
C'est jamais dans l'absolu.
C'est du plaisir.
Dans chaque circonstance,
c'est un moment,
instant.
C'est un lieu, et c'est avec ce au quoi on le mange. Quoi.
Après, vous avez des cuvées un peu plus confidentielles sur le Muscadet. On parlait de l'écu. Vous avez une cuvée comme le Orthognes de l'écu qui est assez phénoménale sur l'évolution. Landron fait aussi une cuvée qui s'appelle Grain de Raisin qui est pas du tout vinifiée comme un muscadet classique et qui après quelques années de garde donne des arômes très évolués et c'est surprenant. Donc il y en a pour tous les goûts dans le muscadet, il y a pour de l'immédiat et du plaisir vin de soif entre copains, il y a des vins un peu gastro. Et c'est super, c'est vraiment une région qui est en train de prendre son essor. Et...
Voilà, c'est intéressant, c'est pas cher. Et puis là, je sais pas, sur la dernière gorgée, j'ai une espèce d'impression de citron, pamplemousse hyper intéressante à la dernière gorgée. Donc il y a quand même du fruit et des expressions fruits exotiques dans l'acidité qui sont moins exubérantes que des
très mangues, sympathiques,
mais qui sont sympas. Voilà.
Autre vin, autre histoire.
Alors là, on change de région, on va dans le Sancerre qu'on avait déjà évoqué.
On passe à l'Est.
En rouge, là on va chez
le Cher.
Le roi Sauvignon.
Sauvignon, alors ça c'est un cépage qu'on retrouve dans d'autres territoires que la Loire.
Alors le Sauvignon est souvent un cépage qui est assemblé, ce qui est le cas en Bordeaux, avec le Sémillon notamment.
Il entre dans la composition des Bordeaux blancs.
Voilà. C'est un cépage qui a des caractéristiques.
Notamment le Sauterne.
Exactement, ce terme. Pessac, etc. Et là, on est en Sancerre. Il y a 80% de blanc hein, quand même dans Sancerre.
Dans le village de Buée.
On est dans le village de Buée, voilà, exactement. Et là, on va trouver un truc.
Moi, j'ai mis mon nez dedans. Je vais le dire tout de suite, je ne suis pas du tout un fan de Sauvignon. J'ai souvent des mauvais souvenirs de Sauvignon. Il a une mauvaise réputation parce qu'il a cet arôme un peu bizarre. Je lâche le mot.
Le pipi de chat.
Le fameux pipi de chat. Et des fois, ça saute au nez et c'est vraiment pas bon. Là, ce qu'on boit, ça n'a rien à voir avec ça. C'est d'une finesse.
Moi, c'est un peu dans le chenin. C'est que le Sauvignon a des caractéristiques variétales. C'est-à-dire qu'il s'impose un petit peu. Maintenant, il faut le travailler.
Ce qu'on va dire dans le chenin.
Moi, au premier nez, j'ai du litchi, là. Un peu. Et il faut savoir que le Sauvignon.
C'est bon ça.
Dans les cépages blancs, il y a ce qu'on appelle les cépages aromatiques, donc c'est-à-dire des cépages qui ont vraiment des caractéristiques qui sont extrêmement notables. C'est
variétal.
Donc le Sauvignon blanc en fait partie. Donc le côté herbacé, pipi de chat, asperge. On peut citer dans le type cépage aromatique le muscat. Aussi avec ce côté très grain de raisin, floral, ça fait partie aussi des cépages aromatiques. Le cépage, le Sauvignon blanc, là, on est en plein dedans. mais on est sur quelque chose de très très pur et de là, très très racé.
Ça c'est magnifique. Hein,
Bon, alors là on est dans les grands, on est quand même dans les grands domaines. On s'est fait un petit peu plaisir. On est chez Vincent Pinard, qui est un des grands domaines, enfin connu et reconnu de Sancerre, sur la cuvée donc qui s'appelle Harmonie en 2013. Voilà, donc le domaine.
Quel beau vin.
Voilà. Le domaine Vincent Pinard, donc c'est un domaine, c'est une vingtaine de générations de vignerons. Là, c'est les
ah oui, quand même.
Les enfants, oui, quand même. C'est les enfants qui travaillent. Enfin, le domaine travaille depuis plusieurs années en biodynamie. On a 17 hectares, dont 12 et demi en blanc. Le reste, bah, par définition, en pinot noir.
En pinot noir,
parce qu'on est
à Sancerre.
À Sancerre. Et on est voilà, sur des gens qui ont une approche biodynamique, travaillent beaucoup le parcellaire. Chaîne Marchand, Harmonie, donc des cuvées.
Petit Chaubarin.
Voilà, exactement. Donc on est sur des esthètes, en tout cas, de Sancerre et des gens qui travaillent
c'est
bien.
C'est d'une précision, ouais. C'est pur. Il n'y a pas du tout ces petits défauts qu'on trouve parfois dans le Sauvignon de base.
Non, c'est superbe. Et en appellation Sancerre, donc. On a quand même trois villages qui sont très distincts et qui donnent des expressions assez différentes du Sauvignon Blanc. Donc vous avez Buet, qui est le village où Vincent Pinard...
On est sur ce qu'on appelle les fameuses caillottes.
Voilà, c'est les caillottes.
Les calcaires de
Donc vous avez Sancerre, même où on trouve des gens comme Alphonse Mello, les Vacherons, et puis Chavignol, où mon coup de cœur, c'est Gérard Boulet. Et puis un terroir d'exception qui s'appelle les Mondanais. Et puis bon, vous avez Dagno avec Silex, Pursang et les gens comme ça. Donc c'est quand même une appellation Sancerre où il y a.
On est en Pouilly-Fumé.
Non, Dagno, tu as aussi.
Pouilly-Fumé.
Tu as Dagno fait des Pouilly-Fumé, mais ah, aussi des Mondanais et puis des Buissons Renards sur Sancerre.
Ce truc piège.
Sur Chavignol.
Du Pouilly-Fumé qui est en Bourgogne et du Pouilly-Fumé qui est en Loire.
Oui.
Hop. Petit truc.
Oui, fumé en Loire.
Voilà. Ouais.
Oui, fumé, c'est du vin de Loire.
Exactement.
Ouais, de l'autre côté, de la rivière.
Je précise qu'en préparant, on a goûté un autre Sauvignon que moi j'avais trouvé magnifique. C'était un Vincent Gaudry dont on avait parlé quand on avait fait les rouges. On avait bu son Pinot Noir qui était superbe et son Sauvignon est superbe également. Et voilà, c'était la première fois que je buvais un Sauvignon qui me plaisait autant. Et puisqu'on parle aussi, puisque je parle des gens dont on a parlé lors du cycle rouge, il y a également le vin des frères Boisard, le domaine du Mortier, Olivier Fabien Boisard, dont Grégor nous avait parlé en rouge. C'était un beau Cabernet Franc de mémoire, une belle fraîcheur, une grosse gourmandise. C'est pareil, eux aussi font... du Sauvignon et ils font un très très beau vin blanc de Loire. On va continuer notre petit voyage.
Alors juste, il y a des choses à dire. Sauvignon, il y a bien sûr.
Là, il y a des chiffres. Tu vas voir.
On va dire, il y a trois expressions de Loire. C'est pour les chiffres.
Oui, vas-y.
Non, mais Sancerre, on n'oubliera pas Mentou Salon aussi, qui est
tout à fait
avec le domaine Pelé.
Le domaine Pelé qu'on avait le plaisir d'interviewer Mathilde.
Superbe vin.
Et donc le Pouilly Fumé. Voilà, donc les trois grandes expressions du Sauvignon de Loire sont trois belles expressions. Hein, quand on va dans des diagnos sur la cuvée Silex, par exemple, qui est juste un truc magique.
Et puis Pouilly Fumé, il y a aussi Michel Red, j'en oublie un autre aussi, ça m'énerve.
C'est pas grave, donc c'est quand même je pense que le Sauvignon s'exprime quand même le mieux en Loire.
Absolument.
Réconcilié avec le Sauvignon en fait.
Ouais.
Voilà. Il faut être exigeant avec ce cépage en fait. Quand il est moyen, moi je le trouve pas bon. Par contre, quand c'est fait comme ça, là, c'est quand même
super. À Bordeaux, sur les assemblages, c'est quand même très beau, mais c'est très cher.
Ouais.
C'est très beau, c'est très cher après.
Sur un assemblage, je pense qu'à Bordeaux, on peut citer Sudiro, qui est très connu pour ses sauternes, mais qui aussi fait des assemblages Sauvignon blanc, Sémillon en sec, avec une dominante Sauvignon qui sont.
Après, c'est une question d'école.
Sublimes.
C'est une question d'école. Soit on parle d'harmonie et d'opéra, ou soit on parle de solo. Moi, je suis plutôt monocépage.
Alors, dans ce cas, je comprends.
Non, mais... C'est une approche purement esthétique et donc purement individuelle. C'est-à-dire que je trouve que les plus belles expressions, les plus vibrantes, les plus parlantes, les plus
c'est le monocépage.
Qui touche au cœur, c'est le monocépage. Que ce soit en Syrah, que ce soit en Sauvignon, que ce soit en Chenin.
Et puis, mais bon, plutôt le solo de jazz que le philharmonique, quoi. C'est ça l'idée.
Et puis après,
les deux sont beaux, mais on a le droit de préférer l'un à l'autre, en fait.
On peut kiffer les quatre saisons, on kiffe les quatre saisons, mais quand même, le solo de violon sur l'été. Ça me fait kiffer.
Voilà. Et puis après, Sancerre, on sent vraiment que plus que, au-delà du cépage.
Un podcast sur les chevaux, un podcast sur la musique classique, c'est bon.
Ouais, ça va être compliqué. Hein.
Sur l'esthétique, c'est bon.
Pardon, je t'ai coupé.
Même si la quille est esthétique.
Sur Sancerre, on a, au-delà du cépage, il y a aussi un terroir qui parle. Donc, qui fait que. On a une expression unique du Sauvignon Blanc. Moi je me souviens avoir emporté en Australie un Sancerre tradition de Gérard Boulet à 10€ la quille pour faire goûter ça à mes amis australiens qui connaissent que les Sauvignons Blancs un peu sur l'ananas et la mangue très exotiques. Et ils étaient là, ah waouh! Et je leur ai dit, parce que Chavignol, c'est pas que du fromage, c'est aussi
c'est pas que du crottin.
C'est pas que du crottin, c'est aussi du Sauvignon Blanc qui déchire.
Tu veux en parler du cheval, c'est ça?
Voilà.
La boucle est bouclée.
Mais c'est vrai.
Commence avec le cheval, il finit avec le crottin.
Voilà, donc la boucle est bouclée.
Ami australien.
Mais donc oui, on a cette expression du terroir qui est unique. On partage des terroirs aussi un peu avec Chablis, donc sur des failles assez anciennes et vous avez toute cette minéralité, le côté fossile aussi sur l'évolution à Sancerre. Vous avez des Sauvignons Blancs qui ont ce côté un peu pétrole, kérosène.
C'est la grande différence rapidement entre Mentoussalon et Sancerre, c'est que Mentoussalon est kilmérangien, c'est-à-dire proche de Chablis, alors que Sancerre n'est pas.
Le côté un peu portland, enfin c'est portlandien, je pense.
Donc avec des coquillages à l'intérieur.
Voilà, exactement. Les fameuses les petits coquillages.
Avec des coquillages dedans.
Eh ouais.
Merci, messieurs. On va continuer ce voyage en parlant de Chenin dans les deux prochains épisodes. Et ce
Chenin
sera la
faisant.
De la saison Chenin faisant.
Média blague.
Merci, Benoît Autier. Merci, Patrice Defay. Merci, Philippe Gassi.
Allez, à bientôt. Plaisir.
Salut.